Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons ouvrir notre Bible, un premier passage dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et puis, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que vous croyez à l'utilité et à la puissance de la prière? Ouais, ça c'est important. Alors, c'est ce que nous allons découvrir à travers notre méditation ce matin. Nous prolongerons peut-être, si Dieu le veut, dans cette méditation, tout simplement. Alors, je vous rappelle, donc, Colossiens, chapitre 2, verset 1er. Et nous allons lire donc quelques paroles. Voilà, chapitre 2, verset 1er. Paul dit ceci: « Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Je retiendrai cette première partie. Je veux que vous sachiez combien grand est le combat. Et il s'agit naturellement, et je pense que ça tombe sous le sens, du combat de la prière, du combat de l'intercession que Paul adressé à Dieu pour les chrétiens de la ville de Colosse. Si nous pouvions donner un titre, et nous allons le donner, à notre réflexion ce matin, ça serait celui-ci: grandeur et douleur de la prière de la foi. Oui, on est habitué à une prière, vous en conviendrez, qui est la prière qui est celle du quotidien, de la routine, de l'habitude. Je ne veux pas dire que cette prière-là n'a pas son sens, sa raison d'être, parce que nous en avons aussi, eh bien, tous les résultats par les exaucements que Dieu nous apporte, et elle est nécessaire. Mais nous allons voir, et je pense que l'Église a besoin de comprendre, de grandir dans la foi, de grandir dans le service, de grandir dans la connaissance, comme nous l'avons lu il y a un instant, et dans la sagesse de Dieu. Et cela nous implique les uns et les autres à une maturité spirituelle. On ne peut pas rester que des petits enfants toute notre vie. Il faut qu'à un moment ou à un autre, eh bien, nous croissions dans le développement de notre vie spirituelle. Je pense que ce qui est à craindre pour l'Église d'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, c'est que l'on substitue finalement à cette nourriture constituée, c'est-à-dire substantielle qu'est la parole de Dieu, toutes sortes de choses qui ont leur place dans la vie d'un chrétien ou dans le culte de l'Église ou dans la vie spirituelle des uns et des autres. Mais je pense que au ciel, nous aurons certainement le correspondant de ce que nous aurons été sur terre. Si nous sommes restés des petits-enfants spirituels en nous nourrissant de lait et de choses que l'on donne aux enfants, eh bien, certainement de l'autre côté, nous resterons aussi petits. Mais si nous avons à cœur, et ça c'est le développement de notre vie de chrétien, si nous avons à cœur de pénétrer la parole de Dieu, et que nous passions des émotions à une structure, à une stature spirituelle, je pense que de l'autre côté, il y aura certainement le correspondant. Je vous dis tout cela parce que nous apercevons que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un jugement, hein, c'est simplement une appréciation de constatation en tant que pasteur, que je m'aperçois que de plus en plus, la parole de Dieu disparaît dans son explication, dans son approfondissement, autant chez les chrétiens et notamment chez parfois les pasteurs, pour la remplacer par des choses qui appartiennent à l'émotionnel, qui appartiennent aux sensitifs, qui appartiennent finalement à ce que nous ressentons, et alors que finalement la foi n'est pas le ressenti, c'est la conviction. Et Paul dit cela aux Colossiens, il dit, mais je voudrais que vous sachiez quel est le combat que je mène pour vous. Et ce combat n'est autre qu'un combat de la prière. C'est pour cela que je vous ai parlé de la grandeur, des douleurs, et aussi nous pourrions peut-être ajouter ce qu'il y a de merveilleux dans l'exaucement de Dieu. Nous voulons tous être exaucés. Nous voulons tous que Dieu nous réponde et qu'il nous donne de grandes choses. Ça, c'est l'aspiration de chacun. Mais écoutez, vous allez bien faire attention. Ce que je vais dire ce matin, je vais demander un effort parce que il y a des amis qui nous rejoignent. Alors, je vais essayer de parler simple. Mais je voudrais m'adresser aussi aux frères et sœurs qui sont là, convertis depuis 20 ans, 30 ans et tout cela. Et nous allons justement, nous mettre à table devant un plat, permettez-moi de le dire, une nourriture spirituelle constituée. Et j'ai trois exemples bibliques, je vais en parler d'un particulièrement, dans cette grandeur et dans la douleur de notre service, de notre engagement dans la prière. Je cite Job dans un premier temps. Job, c'est un homme pieux, c'est un homme qui a la foi, c'est un homme qui fait tout pour plaire à Dieu. Et on connaît la nature même de sa prière. Quand il lui arrive tout ce que vous connaissez, et on sait qu'il en sortira victorieux. Vous avez un deuxième personnage dans la Bible qui s'appelle Néhémie. Dieu va lui donner par une révélation au fond de son cœur qu'il va être celui qui va devoir reconstruire les murailles de Jérusalem, c'est-à-dire ramener la gloire en quelque sorte dans ce pays dévasté par les invasions et l'invasion en particulier des ennemis d'Israël. Et à ce moment-là, quand Dieu, il va prendre conscience que Dieu l'appelle à une œuvre, à quelque chose de grand, quelque chose de beau, qui va être la résurrection du peuple d'Israël après l'exil, eh bien, il nous est dit qu'il va prier, il va pleurer, et Dieu va le conduire. Mais le personnage dont je voudrais vous parler maintenant, c'est Daniel, le prophète Daniel. Il nous a laissé des choses extraordinaires, Daniel. C'est dans quelque sorte l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et je ne vais pas revenir sur le propos de l'Apocalypse, nous y sommes depuis des mois et des mois, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier, et je vous invite à lire maintenant dans le livre de Daniel, au chapitre 9, et là, tout simplement, 4 versets. Et vous allez voir qu'il y a là, pour chacun d'entre nous, une prise de conscience de la nécessité de la prière, la place qu'a la prière dans la vie d'un chrétien, l'importance et la dimension de l'exaucement. On dit quelquefois dans nos églises, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas ceci et cela. Alors nous ne nous plaignons pas parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient peut-être parfois de notre négligence ou de notre oubli. Écoutez bien. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu le roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai mon regard, ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cende. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur. Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On verra la suite d'ici quelques instants. La prise de conscience de Daniel de la nécessité de la prière et de rentrer maintenant dans un service qui va être un service de libération, de délivrance pour le peuple d'Israël, c'est quand il s'est tourné vers la parole de Dieu. On est d'accord ? Le réveil dont nous parlions il y a 3 à 4 semaines commence par une prise de conscience de ce que Dieu nous dit et non pas de ce que nous imaginons finalement faire pour produire un réveil. Écoutez bien, il est dit ceci, « Je tournai ma face devant Dieu après avoir vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la libération de mon peuple. » Si nous voulons grandir, frères et sœurs, il faut revenir à la parole de Dieu. C'est dans cette parole que nous trouvons la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et si nous faisons l'impasse, nous allons inventer toutes sortes de choses, qui peut-être auront l'apparence d'être spirituelles, qui auront peut-être l'apparence de donner la vie et de souffler l'esprit. Mais ça ne sera qu'une apparence. Daniel est un homme qui est soucieux de faire la volonté de Dieu. Et peut-être même, lui en tant que juif exilé en Chaldée, eh bien, il aurait pu certainement, et il avait probablement la connaissance, qu'un jour Dieu ramènerait son peuple, qui avait été aussi, eh bien, prophétisé par Jérémie, comme cela nous est dit. Mais il ne voulait pas faire les choses comme lui le pensait, dans sa conscience d'israélite, avec ce pressentiment que, eh bien, Dieu allait délivrer son peuple. Il a commencé à regarder les livres. Et dans les livres, il a trouvé que, eh bien là, il y avait quelque chose qui a annoncé, eh bien, le secours de Dieu pour Israël. Il y a trois points sur notre méditation sur lesquels j'aimerais m'arrêter. D'abord, c'est la position de Daniel. Et je voudrais le rappeler, il est en plein accord avec la volonté de Dieu. Il était pleinement dans le plein de Dieu. Ça, c'est une chose. Savoir si nous sommes dedans ou si nous sommes à côté, ou nous sommes à moitié dans le plan de Dieu. C'est tout le chapitre 9 dont nous dirons quelques mots tout à l'heure. La deuxième chose, le deuxième point fort, c'est la confusion de Daniel, et je m'expliquerai sur la question. Daniel va s'humilier, il va le dire à un moment donné, « Dieu grand et redoutable, tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements, et après, il va se repentir, non pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple entier, qui est dans une situation de détresse, qui est une situation d'esclavage, qui est une situation de misère morale et de misère spirituelle. Il va y avoir l'humiliation de cet homme, le prophète Daniel, et il va ressentir à ce moment-là un malaise spirituel dans l'attente de l'exaucement. Il ne va pas se sentir bien. Il est dans la volonté de Dieu, mais il ne va pas se sentir bien. C'est le soupir dont nous parlions tout à l'heure, le soupir de l'esprit, vous savez. C'est bien, on est chrétien. C'est bien de dire « je crois en Jésus-Christ ». C'est bien de nous réunir parce que nous avons des cultes, nous avons des réunions de prière, des réunions d'évangélisation. Mais Daniel dit « c'est pas suffisant, il y a quelque chose d'autre. C'est pas possible. Où sont les faits et les signes de notre grand Dieu à l'égard de nos pères hier ?» Voilà. Et il y a une pensée qui est suggérée à ce moment-là. C'est au chapitre 10, et je vais la lire quand même, on y reviendra peut-être la prochaine fois. Au chapitre 10... Et au verset 2, il nous est dit « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Ah, vous allez me dire, prier, c'est éprouver une telle souffrance. « Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » Voilà ce qu'il nous est simplement rappelé. La leçon que nous avons en tirée, c'est que Daniel va trouver à ce moment-là, après, ce qu'il va ressentir, un réconfort. Ouais. Il va se placer devant Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et le troisième point fort, et ce que nous allons découvrir et que l'Église peut-être aujourd'hui sous-estime, c'est qu'un voile se lève sur des réalités du monde invisible. Prier, c'est pas de se retrouver dans une église avec un plancher et un plafond, avec des murs de chaque côté, c'est autre chose. À travers la prière de la foi, la prière inspirée par le Saint-Esprit, ça dépasse ce cadre qui nous enferme. La prière nous donne de rentrer dans le monde de l'invisible. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Toujours au chapitre 10, et on va simplement introduire cette pensée, écoutez bien ce qui nous est dit au verset 12, 10, 12 et 13. L'ange lui dit, parce qu'il a eu une révélation, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Alors, c'est un langage un peu, je vous dirais, c'est de l'hébreu. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, finalement, familiariser avec ces textes. Mais je vais m'expliquer quand même dans le détail pour que vous saisissiez pourquoi les choses nous sont présentées de cette manière. Nous voyons qu'il y a en arrière-plan un enjeu céleste. Oui, un enjeu céleste de la prière. Et avant de rentrer par le détail, je voudrais faire quelques remarques préliminaires, elles sont importantes. Il y a dans cette affaire l'enchaînement des événements des deux chapitres, chapitre 9, chapitre 10. Il y a un ange qui parle à Daniel. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait, on pourrait peut-être parler de d'intuition du Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes, mais peu importe. L'ange lui dit, dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens maintenant apporter la délivrance, que je viens pour apporter l'exaucement. La prière de Daniel, la contestation spirituelle, puisqu'il ressent un terrible malaise alors qu'il est dans la volonté de Dieu, il prie. Et puis il y a l'exaucement qui va arriver, mais d'une manière extraordinaire. Vous voulez voir encore de l'extraordinaire dans votre vie? Vous voulez voir de l'extraordinaire dans la vie de l'Église? Eh bien, écoutez bien. Écoutez, parce qu'il y a tout un cheminement qui nous est rappelé. Si cela est écrit, c'est pour notre instruction et que nous, vraiment, nous comprenions. Cela va se passer en trois phases. Il y a d'abord une pénétration dans le monde de l'invisible, les réalités célestes. Quand Daniel prie, sa prière, elle va vers Dieu. Elle parcourt également et elle atteint les dimensions angéliques, oui, du monde des anges. Mais cette prière atteint également les esprits méchants et les autorités déchues dans les lieux célestes. Il y a Dieu, il y a le monde de Dieu, le monde angélique et le monde céleste de Dieu. Et puis il y a aussi toute l'autre partie qui est la partie terrible, épouvantable. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous sommes des hommes mais nous avons cette réalité de la chair et le sang, mais c'est pas contre cela que nous avons à lutter, mais contre des dominations, des autorités, contre des les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Et Daniel, l'homme de foi, le chrétien que nous sommes, l'Église que nous sommes, lorsque nous faisons monter nos prières, notre prière monte vers le trône de la grâce, dans les sanctuaires de Dieu. C'est entendu également par le monde angélique au service de Dieu. Mais nos prières, assurément, elles sont entendues aussi par le monde ténébreux et méchant. Et vous allez voir qu'il y a tout un enchaînement. Au moment où vous êtes dans la volonté de Dieu et que Dieu entend vos prières, au moment où Dieu va se servir de ses gens, de ses anges, comme dans la situation que nous avons, et pour nous apporter l'exaucement, et au moment où nous prions également, il y a aussi les démons qui vont travailler à défaire ce que nous avons prié, à casser ce que nous avons demandé à Dieu, et à empêcher les promesses de Dieu de venir jusqu'à nous, donc vers la plénitude de l'exaucement. Vous avez compris ça? Comprenez bien, hein, parce que prier, c'est pas seulement dire du bout des lèvres. Non, non. La prière a un sens beaucoup plus profond que nous l'imaginons. Elle traverse toute l'immensité des cieux pour atteindre finalement son but, l'exaucement de Dieu, la bénédiction des hommes, la délivrance des hommes, le salut des hommes, pour que Dieu puisse être glorifié. Donc, voilà cette introduction. Alors, le pourquoi de cette difficile réflexion que je porte devant vous ce matin, ça se résume en trois mots dont l'Église a besoin de faire des progrès. C'est le discernement spirituel. Dans l'épître de Paul, dans Corinthiens 1 Corinthiens, il nous est dit que Dieu a donné par son esprit le discernement des esprits. Ouais. Un chrétien n'est pas un aveugle. Ce n'est pas un homme qui pense que tout est beau, tout est magnifique, tout est parfait. C'est un réaliste. C'est pas quelqu'un d'éthéré. C'est quelqu'un qui est en prise directe avec les réalités de notre monde visible et également du monde invisible. Donc le discernement. Tout cela pour nous amener à la délivrance, comme le peuple d'Israël devait être délivré pour retourner à Jérusalem, donc dans son pays. Et puis tout cela nous amène à la liberté. Mais la vraie liberté, c'est pas la belle liberté de faire comme je l'entends, comme je veux et comme je pense. C'est la liberté que Dieu me donne dans mon être physique, dans mon être moral et dans mon être spirituel. Et là, je suis au service de Dieu. Je suis véritablement, eh bien, comme Dieu le désire. Alors, c'est un sujet que l'ennemi, c'est-à-dire le diable, a tout intérêt à occulter parmi les enfants de Dieu et vous faire oublier toutes ces dimensions. Voir les subtilités de l'invisible, l'affranchissement des êtres, leur épanouissement, voilà un domaine que le diable défend jalousement et furieusement. Vous voulez la conversion de vos enfants? C'est discuté. Vous voulez véritablement rentrer dans quelque chose que Dieu vous a donné pour le servir? C'est discuté. Vous voulez véritablement que l'Église avance? C'est discuté. Tout est discuté et tout est disputé. Et l'ultime stratégie de l'adversaire, c'est de nous faire croire que finalement tout ça, ça n'existe pas. que c'est tout simplement, eh bien là, quelque chose dans notre tête. Et c'est précisément ce à quoi tend l'Évangile, ce que vous entendez ce matin, dans la vie des hommes, et à plus forte raison au sein du peuple de Dieu. Nous avons besoin de rentrer, comme nous l'avons lu, dans la sagesse et la connaissance de Dieu qui s'appelle le mystère de Christ. J'espère que je suis pas trop compliqué. Mais il faut que nous avancions, frères et sœurs. On peut pas rester à des rudiments, c'est pas possible. Moi, j'ai eu à cœur d'apporter cela, comme je le fais. Peut-être certains diront, mais quand Alain y parle, c'est très difficile. Oh, je vais essayer de me mettre dans ce que le Seigneur... Parce que nous voulons avancer, nous voulons grandir. L'Église peut pas se contenter des amen et des alléluia. Il faut que ça aille plus loin encore, même si nous le disons tout à fait sincèrement et de tout notre cœur, naturellement. C'est important. D'abord, le discernement. Pour que le peuple de Dieu et que ceux qui sont autour de nous et que nous aimons et qui ne sont pas sauvés sortent d'un aveuglement. Le monde est aveuglé par toutes sortes de choses. Parfois, l'Église ne voit pas très clair. Parfois, nous voyons, mais nous voyons qu'à moitié. Il y a des troubles d'appréciation et nous nous trompons. Nous disons que c'est ainsi alors que finalement la réalité est peut-être tout autre. Nous avons des incompréhensions spirituelles. Alors que vous cherchiez à comprendre quelle est la pensée de Dieu, je vous y encourage parce que c'est comme ça qu'on grandit. Quand on se pose pas de questions, on n'avance pas. Mais quand on se pose des questions sur certaines réalités, sur certains faits de la vie, et souvent des faits qui nous font souffrir, on dit « Mais pourquoi, Seigneur ?» Alors à ce moment-là, eh bien, il nous faut du discernement. Et c'est l'apôtre Paul qui le dira lui-même, il dira « Mais sachez que le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas et qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a de formidable et de beau, de grandeur dans le message de l'Évangile. » Vous connaissez, hein, ce sont des textes que je cite comme ça de mémoire, tout simplement. Ensuite, du discernement, ça nous amène à la délivrance, à un affranchissement, non pas d'un asservissement qui était celui d'Israël, comme nous l'avons vu, parce qu'ils étaient esclaves d'un autre peuple, d'un empire, mais ça peut être aussi un asservissement dans nos problèmes personnels, dans notre âme, dans notre cœur, où nous avons besoin véritablement de rentrer dans une nouvelle dimension, parce que nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux parce qu'il y a une oppression à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, il y a un esprit de culpabilité si souvent rencontré chez les chrétiens. Je rappelle cette parole où il est dit « Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Vous qui m'écoutez ce matin, je voudrais vous dire, vous aimez le Seigneur, vous croyez dans son sacrifice, mais il n'y a plus de condamnation, vous n'êtes plus condamné. Le Seigneur vous a affranchi, c'est la grâce, c'est la faveur. Et là, il y a besoin d'une délivrance aussi pour avancer. Tant que nous restons dans la crainte et dans la peur, et que nous courbons le dos en disant « Mais qu'est-ce qu'il va m'arriver ?» et que vous ne pensez qu'à Dieu qui va vous châtier et qui va vous punir. Non, je pense qu'il faut changer. Et ça, c'est une stratégie de l'ennemi pour vous complètement vous remplir votre tête de craintes et de toutes sortes de choses qui vont pas vous permettre d'avancer, hein, finalement. Et puis, quelquefois, il y a des états d'abattement dans le peuple de Dieu, et chez les chrétiens, chez les uns et les autres. On n'arrive pas à décoller, on a perdu la joie, on a perdu l'entrain, on a perdu le dynamisme, sans en y ajoutant eh bien, nos doutes, nos inquiétudes, qui sont là pour nous paralyser. Écoutez, le peuple de Dieu, c'est un peuple libre. Ce n'est pas un peuple, finalement, qui est là à marcher la tête basse. Nous, nous marchons pas la tête basse, nous marchons la tête vers le ciel, parce que le ciel, il est bleu. Et c'est le ciel de Dieu. Je dis tout cela parce que il y a tellement besoin d'une délivrance et d'une libération chez les enfants de Dieu. Moi, je me réjouis quand je vois un chrétien ou une chrétienne qui est heureux d'être chrétien et chrétienne, qui a le sourire et qui peut dire « Eh bien, c'est quelque chose de formidable, je bénis Dieu. » Et vous savez, ça encourage tout le monde. Mais il y a des frères et sœurs qui sont malheureux. Et nous sommes là justement par la parole de Dieu pour vous dire « Mais le Seigneur va vous aider à sortir de votre misère. » Il y a tellement d'accidents dans notre vie. Il y a tellement de choses qui nous ont percutés, qui nous ont blessés, qui nous ont complètement écrasés. Mais le Seigneur est là pour nous délivrer. Et souvent nous fuyons cette délivrance parce que nous ne comprenons pas. C'est pour ça qu'il nous faut le discernement de l'enjeu. Le Seigneur veut nous bénir et le diable veut nous maudire, en quelque sorte, et nous laisser dans cette disposition d'abattement et de misère et de médiocrité de la vie, en tout court. Hein. Et cela nous amène à la liberté, le discernement, la délivrance, la liberté, sans laquelle, liberté de Dieu, Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, nous dit Jésus dans Jean chapitre 8. Mais dans sans laquelle liberté le croyant ne peut progresser, s'affermir et être efficace dans le service de Dieu, et entre autres dans la prière. Entre autres dans la prière. Comment pouvez-vous prier pour vous-même? Comment pouvez-vous prier pour les autres s'il y a cet encombrement à l'intérieur de vous-même? Si vous êtes là perclus de doutes et vous êtes effarouché. La foi, c'est véritablement l'affirmation, eh bien, que nous faisons confiance à Dieu. Mais si nous sommes toujours dans ce recul et que nous sommes toujours en train de dire, mais qu'est-ce qu'il va m'arriver, ceci et cela, vous êtes malheureux, physiquement. Les membres, peut-être, de ceux qui sont autour de vous sont malheureux. Et vous sentez que vous êtes comme neutralisé, mais le Seigneur va vous donner la liberté. Et il va vous donner la liberté par la voie de la prière. Et nous allons le voir au moins deux fois, dans deux cultes, par la puissance de la prière. Les autres prient pour nous. Dieu merci, nous ne sommes pas tout seuls. Mais nous-mêmes, nous avons besoin, eh bien, vraiment de faire ce pas de la prière qui libère. Daniel avait été choisi par Dieu pour libérer un peuple entier. Alors il a regardé dans les livres, il a dit oui, c'est bientôt le moment. Et là, à ce moment-là, il a commencé à prier. Dieu l'a rempli d'un esprit de grâce et de supplication pour son peuple qui était malheureux en exil. Et on va voir ce qui s'est passé. Parce que ce que Dieu veut, le diable ne le veut pas. Et il va faire un petit peu comme cet adversaire, cet ennemi a fait avec Job. Job était un homme sur la terre, mais le combat, il s'est passé dans les cieux, entre Dieu et le diable. Et Job, il a rien compris à la chose. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Il m'arrive toutes sortes de choses, je suis malheureux, je suis souffrant de toutes les manières. Mais il ne comprenait pas qu'il était l'enjeu. Mais vous savez ce qui a fait la différence avec Job? C'est qu'il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Et il était malheureux, il ressentait cette misère et ce malheur. Mais Dieu est venu à son secours parce qu'il lui a fait confiance. Il lui a fait tout simplement, eh bien, confiance. La liberté. Je ferai une remarque également dans ce que nous disons, c'est que l'Église, et le chrétien en particulier que nous sommes les uns les autres, nous ne mesurons pas toujours l'étendue de sa vocation, de notre vocation d'allié de Dieu. Quelquefois, par nos craintes et nos doutes, nous nous faisons l'allié de l'ennemi. Nous croyons plus à son mensonge qu'à la vérité de Dieu. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voilà. Transfert de confiance. Changer, finalement, eh bien, la vérité en mensonge. Croire le mensonge plus que ce que Dieu nous dit. Dieu veut que nous soyons ses alliés dans ce combat. Et il sait ce que nous passons. Il connaît nos doutes, il connaît notre faiblesse, il connaît tout ce qui, nos incompréhensions. Mais il est là pour nous aider à nous en sortir. Et cela va du simple exaucement, tout simplement, de nos besoins personnels, au salut ou à la délivrance d'une âme, pour ceux et celles pour lesquels nous prions. Ça, c'est quelque chose de grandiose quand on voit quelqu'un se convertir. Et que la victoire a été prise sur une âme qui est perdue, et comme Paul le dira, et comme Paul l'entendra de la bouche de Dieu, qui lui dira, « Je t'ai choisi pour te faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et que tu apportes le pardon des péchés aux hommes. » C'est cela, naturellement. Alors, il est question de l'instauration ou de la restauration du royaume de Dieu dans notre texte, du peuple d'Israël, pour se retrouver finalement, eh bien, comme il doit se trouver en Israël. Alors, on l'a dit, Daniel consulte providentiellement les livres prophétiques annonçant le terme de la captivité des Juifs à Babylone. Voilà, c'est ce qu'il trouve dans la lecture. Les 70 ans touchent à leur fin. Les exilés vont bientôt revenir en Palestine, c'est-à-dire qu'ils vont revenir à Jérusalem. La réaction de Daniel dans ce qu'il lit, et si vous ne lisez pas la parole, vous ne comprendrez pas ce que Dieu veut vous dire. C'est pas d'une lecture systématique, c'est d'une lecture inspirée par l'Esprit, vous comprenez? Quand je lis la parole, je demande au Seigneur de m'éclairer. Et il y a des aspects qui viennent, alors à ce moment-là, frapper mon esprit, ma conscience. La réaction de Daniel est significative de l'investissement qu'il déploie pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il le dit lui-même. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications et en jeûnant. C'est-à-dire qu'il a fait toute affaire cessante, il s'est mis de côté, il a dit maintenant voilà, je crois que le temps de la délivrance du peuple d'Israël est arrivé, je me tiens devant toi, et Seigneur, parle-moi, dis-moi ce qu'il faut faire. Dieu aurait pu faire tout autrement, hein, mais il fallait que ça passe par un homme comme Daniel. Sa prière est admirable, c'est le cri d'une profonde humiliation devant Dieu, et c'est une confession. Je prends simplement deux ou trois versets pour vous montrer ce qu'il dit dans cette prière, le préambule, finalement, eh bien, qui va l'amener à découvrir, eh bien, quelque chose de formidable. Le verset 5, il nous est simplement dit dans le chapitre 9, nous avons péché, ouais. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Il aurait pu dire, ton peuple Israël a péché, il s'est détourné de toi, mais il se met dedans. Bien que Daniel n'ait pas forcément péché comme les autres, mais il s'implique dedans, et nous sommes tous, excusez-moi, dans le même bateau. On n'est pas, personne n'est au-dessus des autres. On est tous co-héritiers, dans ce sens, mais on est aussi co-responsables. Et il se dit, moi je prie pour mon peuple parce que je fais partie de ce peuple. Et au verset 18, il est donné aussi encore quelques explications. Il dira ceci, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Et au verset 19, il poursuit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Il s'humilie, tout simplement. Il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque nous nous approchons de Dieu dans ce combat à la fois glorieux mais douloureux de la prière, il faut venir avec des conditions d'humiliation et en ne pensant pas et en ne prétendant pas que nous connaissons tout et que nous savons tout. La règle de l'exaucement de Dieu dans notre vie, dans nos prières, c'est l'humilité, tout simplement. Et il s'humilie, tout simplement. Être dans le plan de Dieu, Daniel l'était. On n'y revient pas. Au-delà du contexte propre du récit, la victoire et l'exaucement ne se prompt pas dans l'indifférence et dans la nonchalance. Moi, ce que je redoute pour l'avenir, c'est que finalement, eh bien, l'esprit qui prévaut dans le monde, l'esprit jean-foutiste, l'esprit d'indifférence, l'esprit où finalement, eh bien, on verrait les choses les plus extraordinaires de Dieu, eh bien, finalement, on dirait, bah, c'est comme ça. On est blasé aujourd'hui, hein. On est un petit peu lavé, délavé. Il y a une chose que nous avons besoin de demander à Dieu. Seigneur, émerveille-nous encore. Donne-nous de nous émerveiller de ta parole. Donne-nous de nous émerveiller de la puissance de ta parole. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde avec une mentalité et qui touche l'Église. Aujourd'hui, vous savez, tout est de passage. On est des consommateurs, alors qu'on devrait être des consomme-acteurs. On devrait pouvoir finalement eh bien vriller, vibrer, tressaillir avec la vie de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ce que Dieu est capable encore de faire. Et là, il n'a pas réagi avec indifférence quand il a lu les livres. Il n'a pas réagi avec nonchalance, parce que prier, c'est un engagement sérieux. Autrement, c'est pas la peine de prier, ça ne sert à rien. Si c'est prier pour prier, Jésus nous le dit, hein, ne multipliez pas de vaines paroles parce que vous n'allez pas vous imaginer qu'à force de paroles, vous serez exaucé. Hein. Ça ne sert absolument à rien. C'est un non-sens. Mais priez avec cœur. Priez avec véritablement la foi en vous-même. Sentez, comme nous en avons parlé avec le groupe de jeunesse hier soir, la question était la compassion. Qu'est-ce que la compassion ? C'est souffrir avec. Souffrir avec. Je vois tant de choses qui sont terribles autour de moi. Je vois des situations de frères et de sœurs dans l'Église où moi, humainement parlant, je ne peux rien faire. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est m'approcher de Dieu et de prier, de supplier le Seigneur pour que ce frère ou cette sœur, eh bien, elle puisse avoir la foi, parce que c'est ça, hein, ce qui va, pour atteindre la délivrance et se remettre finalement, eh bien, à la vie en route. Tous ceux qui visent à contrecarrer les desseins de l'ennemi déclenche la lutte. Et c'est parce que je priais pour la délivrance. Je priais pour que mes frères et mes sœurs aient le discernement des choses de Dieu. Je priais pour qu'ils aient la liberté, le salut, le pardon et tout cela. Eh bien, automatiquement, ce genre de prière va déclencher une lutte dans le ciel. Contre moi. Contre ceux qui prient. Contre l'Église qui prie. Pour menacer le royaume de Dieu. Et quelle lutte. Quelle lutte. On va en voir quelques aspects. 70 années auparavant, avant cette prière, avant ce chapitre-là, l'exil avait été voulu par Dieu. C'était pas un accident que les Juifs se retrouvent en déportation en Chaldée. C'était pas un accident, ça a été voulu par Dieu, et on en connaît naturellement les raisons. Mais maintenant, cet exil devait prendre fin. L'ennemi, à ce moment-là, va resserrer l'étreinte. Au moment de la libération, et quand on est à deux doigts d'une délivrance, quand on est à deux doigts de la frontière du pays de Canaan, quand on est à deux doigts de prendre une victoire, et que Dieu là va se glorifier à travers des choses extraordinaires à travers notre vie, c'est là où l'ennemi attaque d'autant plus. Il va resserrer l'étau, il va faire une pression, tant que nous sommes malheureux, tant que nous ne bougeons pas, tant que nous crions, mais ça ne va pas plus loin. Mais quand véritablement Dieu met en route le plan de délivrance, la libération, mes frères et sœurs, est-ce que vous ne l'avez pas vu? Et c'est là où il ne faut pas se décourager, parce que c'est précisément les pressions que nous recevons. Et c'est à ce moment-là que nous baissons les bras en disant « Mais Seigneur, je t'ai prié, si c'est encore pire !» Mais non, c'est pas pire, ça va devenir meilleur, et le pire va disparaître. Mais c'est ce que je ressens moi-même, et c'est ce que finalement Daniel est en train de nous enseigner. C'est à nous de reconquérir le terrain. Nous avons été prisonniers, nous sommes prisonniers de souffrances, de toutes sortes de misères. Quelquefois, elles ont été volontaires parce que nous nous sommes mis nous-mêmes, mais il y a beaucoup de victimes aussi, même parmi les enfants de Dieu, parmi les croyants. C'est pas eux qui l'ont cherché, ils sont malheureux, mais c'est pas eux qui l'ont cherché. Et à ce moment-là, quand je vois et j'entrevois un petit peu la lumière de la délivrance, il semblerait que ça s'appesantit encore plus sur moi et que je suis encore deux fois plus malheureux. Seigneur, je ne comprends pas, je te prie pour que tu me délivres et je me suis encore plus malheureux. Mais attendez, c'est que le Seigneur, à travers justement peut-être tout ce cheminement, il voit ce que vous ne voyez pas, mais faites-lui confiance. Et il va nous donner la liberté, il va nous donner la vie à ce moment-là. La réponse à la prière du prophète Daniel semble immédiate. Et au verset 20 et au verset 23, je lis ceci. C'est Daniel qui dit cela. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, Israël. Je parlais encore dans ma prière quand l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » C'est ce qu'on a dit jusqu'ici. Hein. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Tu es un bien-aimé. Mes frères et sœurs, vous êtes des bien-aimés. Au masculin et au féminin, vous êtes des enfants de Dieu, et parce que tu as à cœur ta délivrance, parce que tu as à cœur la délivrance de ton fils ou de ta fille, de ton ami ou de ceci et cela, mais le Seigneur a vu cela, parce que tu as à cœur, il va t'ouvrir l'intelligence. N'allez pas nous imaginer que la guérison divine ou la délivrance psychologique, morale, spirituelle d'une manière ou d'une autre, c'est pressé sur un bouton. Et c'est automatique. C'est pas comme ça que ça se passe. On a souvent cultivé dans nos églises charismatiques le miracle, vous savez, la manière un petit peu baguette de fée. Mais c'est pas ça, frères et sœurs. La vie spirituelle, la hauteur spirituelle, c'est autre chose. Hein. Non, il y a un enjeu derrière nos vies. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profond. Écoutez ces paroles. Daniel le dit. Il priait, il suppliait, il confessait son péché. Pour lui et pour son peuple surtout. Et là, à ce moment-là, il y a eu une apparition. C'était un ange. Mais Dieu peut nous parler, il peut nous parler à travers une prédication, il peut nous parler à travers un don spirituel, il peut nous parler d'une manière ou d'une autre, en l'Église ou en dehors de l'Église. Nous avons un cœur. Et Dieu est capable de parler à notre cœur prophétiquement ou d'une façon ou d'une autre, peu importe. Et il nous est dit que cet homme, ange Gabriel, enfin cet ange qui avait l'aspect d'un homme, il s'approcha et lui a dit à ce moment-là, il lui a parlé, il l'a réconforté, il l'a encouragé et il était venu pour lui ouvrir l'intelligence. Nous avons une intelligence humaine, mais nous devons aussi avoir une intelligence spirituelle, ouais, qui vient du Saint-Esprit. Nous avons besoin, moi je demande pour moi-même, tous les jours je demande que Dieu me donne l'intelligence de conduire l'Église. Parce que je peux le faire d'une manière humaine, je peux le faire avec mon habitude, je peux le faire avec mon expérience pastorale, mais c'est pas ça ce qui compte, c'est pas ça le plus important. Alors quelquefois, c'est vrai que dans certaines choses que nous avons vécues et partagées ensemble, il y en a certains qui n'ont pas compris du tout, hein, pourquoi je faisais pas, ou pourquoi je disais pas, et pourquoi je n'intervenais pas. Mais je savais pourquoi je le faisais. Et quand je dois le faire, moi je me tiens à ce que Dieu me dit. Même si peut-être je peux avoir eh bien les gens contre moi, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est moi le but que Dieu a atteint, le bien, la paix, l'unité, et puis la délivrance naturellement. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des responsabilités, mais on doit les assumer ou alors faut faire autre chose. Et il a reçu donc cette ouverture d'intelligence pour comprendre le plan de Dieu pour cette délivrance. Et il y avait naturellement eh bien toute une chronologie. Et l'ange va lui dire, mais lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Quand vous priez, mais le Seigneur entend. Hein. Dès que vous ouvrez la bouche avec foi, le Seigneur a déjà entendu vos prières. Alors ne dites pas, frères et sœurs, Seigneur, tu ne m'entends pas. Celui qui a fait l'oreille, le créateur de l'oreille, est-ce qu'il n'entendrait pas? Celui qui a fait l'œil, nous dit le livre des psaumes, est-ce qu'il ne verrait pas ta détresse, ta souffrance, ton problème? C'est lui qui est le créateur. Alors, quelle leçon pouvons-nous lui donner, hein? Si ça fonctionne pas toujours chez nous, ça fonctionne chez lui, hein? Donc, dès que vous ouvrez la bouche pour prier avec foi, mais le Seigneur a déjà entendu votre prière. Ça, c'est clair? La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il y a maintenant quelque chose à comprendre et à réaliser. Je parlais encore, je priais, je confessais. Quand? Il y a un quand, c'est le temps de Dieu. Pourquoi pendant 70 ans Dieu n'était pas intervenu pour libérer les... Parce qu'il y avait un temps de Dieu. On se plaît à citer cette belle parole du livre de l'Ecclésiaste. Que Dieu fait toute chose belle en son temps. Alors ne soyez pas impatients, parce que l'impatience est en train de neutraliser votre foi, est en train de faire le témoignage de votre incrédulité et non pas de votre confiance. Soyons patients quand tout va bien, c'est pas trop difficile, mais soyons patients quand ça va mal. Et là c'est dur, c'est difficile, Seigneur ça brûle, Seigneur je souffre. Je suis malheureux ou malheureuse. Quand? Le quand de Dieu. Et vous savez, permettez-moi de vous le dire, imprégnez-vous de cette parole, que Dieu ne viendra pas trop tôt. Il ne viendra pas trop tard pour vous délivrer, il viendra au bon moment. Moi, je vous dis ça parce que je crois que c'est la réalité. C'est la réalité. Les mouvements du cœur de Daniel... L'homme qui ployait sous le fardeau de Dieu pour la libération de son peuple et qui souffrait pour le peuple, ses désirs, ses aspirations sont à peine montés de ses lèvres que l'exaucement apparaît. Mais quel exaucement? Parce que c'est ça. Et là, nous allons décomposer ce que c'est que l'exaucement de Dieu, quand Dieu exauce. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, nous l'avons dit. Nous voyons cet ange qui est dépêché auprès du prophète, dont la mission est d'ouvrir l'intelligence de celui-ci. À combien plus forte raison avons-nous besoin, nous aussi, de pénétrer dans l'intelligence de la vie de l'esprit? Nous avons une telle habitude de fonctionner en tant qu'homme, c'est normal, c'est humain, c'est naturel. Ouais. À moins que vous me veniez me voir après en disant « moi je ne suis pas un homme, je suis un ange ». Bravo, je vous admire, mais je vous adore pas. Vous comprenez pourquoi? Ouais, mais on a vraiment besoin d'être renouvelé dans notre intelligence et dans la vie d'esprit pour comprendre la stratégie du monde invisible. Daniel prie, un ange vient lui dire, dès que tu as ouvert la Bible, la bouche, pardon, dès que tu as ouvert la Bible, merci pour votre aide. Dès que tu as ouvert la bouche, l'exaucement est là. Mais de quel exaucement il s'agit? Parce que nous allons découvrir que quand l'exaucement vient, Daniel est encore plus malade qu'avant. Ah ! Moi, j'avais pensé qu'il y aurait un soulagement. J'aurais pensé qu'il y avait un apaisement. Mais il va se trouver encore plus malade. La stratégie du monde invisible. Il ne faut pas oublier que même nos simples prières sont entendues dans le ciel. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, à la fois des créatures angéliques, mais aussi de celles qui sont réprouvées, d'où l'enjeu sur notre vie. Chacun d'entre vous, frères et sœurs, vous êtes dans un enjeu entre Dieu et le diable. Je ne veux pas faire de la démonologie ce matin, mais c'est une réalité. L'incrédule dira, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Mais la Bible nous dit qu'il y a les deux. Il y a le mal, il y a le bien, il y a la lumière, il y a les ténèbres. C'est une réalité que je crois personnellement. Et Paul jugeait comme indispensable l'ouverture de l'intelligence spirituelle pour les croyants de son temps. Écoutez, il écrit dans Colossiens, le même livre que nous avons ouvert tout à l'heure, « Nous ne cessons de prier pour vous afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. » Et il va surenchérir son propos dans Éphésiens, il dira « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans l'invisible, dans sa connaissance, parce que Dieu connaît ce que nous ne connaissons pas, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Un chrétien n'est pas un aveugle. Dieu nous a ouvert les yeux. Ouais. Nos yeux moraux, nos yeux spirituels. Et nous devons être capables de marcher dans la lumière du Seigneur, qui illumine les yeux de votre cœur. Ouais. Ça, c'est une chose indispensable. La réalisation des desseins de Dieu ne peut s'opérer que dans la mesure où Dieu trouve, parmi ses serviteurs, à commencer par eux, parce qu'un serviteur, c'est un berger, c'est celui qui conduit le troupeau. Faut pas qu'il soit aveugle non plus, Mais parmi ses serviteurs et ses enfants, des agents et des alliés dont l'entendement a été éclairé et éveillé. Seigneur, ouvre vraiment nos yeux, s'il te plaît. Alors la prière monte au ciel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Avec cela, douterions-nous encore que Dieu n'entende pas ? Puisque la parole est là pour nous le dire. En apparence, il semble que Daniel ait obtenu gain de cause. Seigneur, tu me dis que tu m'as entendu. Maintenant, ça y est, j'ai l'exaucement. Pourtant, il y a une deuxième phase. Celle qui est cachée, et ça c'est le plus important de notre étude, j'espère que je pourrai encore aller un peu plus loin. Celle qui est cachée, celle que nous méconnaissons trop souvent et pour cause. En fait, cette dimension de la prière est la plus importante, donc la plus disputée. Si nous demandons des exaucements pour des bouts de chiffon, c'est pas grave, Ça n'a pas, ce sont des choses indifférentes, ça. Mais quand il s'agit du salut de quelqu'un, quand il s'agit de grands enjeux pour l'Église ou pour le monde autour de nous, je peux vous dire que le diable, il va se mobiliser pour tout casser. Vous connaissez l'histoire de Job. Job était un homme pieux, intègre. Et c'est parce qu'il était pieux, intègre, il priait Dieu et il se gardait de faire le mal tous les jours, que le diable a pris entre quatre yeux, excusez-moi, façon de parler, mais je peux vous dire qu'il en a vu de toutes les façons, parce que il était cet homme-là, tout simplement, dans son intégrité. Et quand il nous est raconté que Satan est venu, justement, et bien devant Dieu pour lui dire, tu vois ton Job, il est intègre et droit, il te sert tous les jours, eh bien tu me le laisses, tu vas voir dans quel état je veux le mettre ton serviteur. Vous voulez être des chrétiens conséquents? Vous voulez être des chrétiens qui grandissent? Vous voulez grandir dans la foi? Vous voulez être des hommes et des femmes de prière, des adorateurs? Vous voulez faire de grandes choses dans l'œuvre de Dieu? Eh bien, attendez-vous. Vous aurez le soutien de Dieu et il sera là. Il vous portera, il vous conduira quand tes grandes eaux, surmergeront. Elles ne feront pas de mal, ça c'est sûr. Mais attendez-vous à ce que vous soyez disputés, que votre tête soit mise à prix par le diable. Au début de mon ministère, quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai vécu des moments très très difficiles. Vraiment. Parce que il y avait un enjeu spirituel et un frère qui était, moi j'étais rangé, mais il était à Saumur, un frère a eu une vision un jour en ce qui me concerne. C'est pas pour me mettre en avant, c'est pour vous dire qu'il y a un enjeu. À quelque niveau que ce soit, il avait une vision, il est allé voir mon pasteur, à ce moment-là, celui qui me formait, Il me dit, voilà, la tête d'Alain a été mise à prix. Ceci, cela, ceci et cela. Et c'était la vérité parce qu'on l'a vécu. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi je l'ai su après. Mais ceux qui l'ont su, ils se sont tenus dans la prière pour que j'arrive et que je parvienne justement à rentrer dans le ministère. Parce que tout était fait pour me casser et me liquider. Et avec mon épouse, je peux vous dire qu'on en a vu 36 chandelles. Et ça n'a pas duré un mois, ça a duré plusieurs années. Mais il fallait arriver à ce but. Et si aujourd'hui je vous parle de cette manière, si aujourd'hui, modestement et simplement, je peux enseigner l'Église, c'est parce qu'il y avait un enjeu pour que je me taise. Comme tous les serviteurs de Dieu d'ailleurs, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient d'une manière ou d'une autre, je peux vous dire, on ne peut pas. J'espère que vous n'allez pas partir avec l'effroi cet après-midi, en disant qu'est-ce qui va m'arriver. Vous êtes dans les mains de Dieu. Notre tête à chacun est mise à prix. Et ça, faut le comprendre. Et on ne peut pas jouer avec ces choses comme ça en disant bah oui, mais bon, on verra bien. Non, on ne verra pas. C'est votre foi qui va faire la différence. Alors, c'est une dispute, c'est une querelle entre notre Dieu qui est notre Créateur et nous qui sommes la créature. Et il y en a un qui voudrait nous détruire, surtout lorsque nous sommes chrétiens. Il voudrait nous faire retourner en arrière. Il voudrait nous faire chuter dans toutes sortes de choses. Seigneur, garde-nous. C'est dans cette phase-là que le croyant qui prie arrive à s'irriter parfois, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, à se décourager, à désespérer d'obtenir une réponse. Et précisément, la réponse, elle est là. Elle est pas loin. Ne vous découragez pas, frères et sœurs. Je ne sais pas quel est l'état de votre semaine que vous avez passée. Je ne sais pas quels étaient finalement vos sentiments et ce que vous avez pu vivre. Peut-être avez-vous passé par le découragement, peut-être vous dites, mais ça sert à quoi d'être chrétien? Ça sert à quoi tout cela? Ça rime à quoi? Eh bien, permettez-moi, vous avez peut-être une réponse ce matin, c'est que le Seigneur est en train de vous parler et vous dire, mais relève la tête, baisse pas la tête, parce que la délivrance, elle est pas loin. Je vais passer maintenant dans ta vie. Je vais passer dans ton cœur, je vais nettoyer tout ça, vous allez voir. Ouais. Parce que le Seigneur, vous appartenez au Seigneur, vous êtes son fils ou sa fille, vous êtes ses enfants, et c'est lui qui va vous défendre. C'est tous les beaux psaumes de David, hein, quand il crie à Dieu, naturellement. Ouais. Et David, à ce moment-là, va passer par une phase de trouble et d'incompréhension. La prière qui s'élève de l'homme à Dieu ne se fait déjà pas sans mal, parce que c'est toujours un combat, une prière, parce que nous sommes des créatures avec nos faiblesses et toutes sortes de choses. Mais quand il s'agit de recevoir l'exaucement qui va de Dieu à l'homme, les choses sont encore beaucoup plus compliquées. Dieu a mis sur mon cœur une prière d'inspiration pour que je lui demande quelque chose. Cette prière est entendue immédiatement. Dieu va me répondre, mais c'est justement dans cette réponse entre mon Dieu et moi qu'il va y avoir des interférences dans les lieux célestes. La prière qui monte de la terre au ciel, c'est une chose, mais la prière qui descend du ciel avec l'exaucement sur la terre, il y a des bandits de grand chemin entre les deux. Et lui, il va essayer de tout casser. Il va essayer de faire en sorte de me mettre dans un état pour douter, pour me décourager, pour ne plus attendre la réponse de Dieu, pour essayer de me voler ce que Dieu me donne et de m'empêcher d'atteindre le but qu'il s'est assigné. Vous comprenez? Ça va? C'est ce que prétend révéler le chapitre 10. J'y reviendrai la prochaine fois. Ce sont les interférences spirituelles. Vous savez ce que c'est que les interférences? Quand vous écoutez une radio et qu'à un moment donné, il y a du brouillage. Vous comprenez? Alors vous tendez l'oreille. Vous savez, comme ici Londres. Je vous parle. Voilà. Non, non. Mais c'est très difficile d'écouter. Eh bien justement, ces interférences ne viennent pas de Dieu. N'allez pas vous auto-accuser, elles ne viennent pas de vous. Elles viennent d'un ennemi qui se met sur la ligne pour vous empêcher d'entendre, de comprendre, de recevoir, de saisir et de vous approprier l'exaucement du Seigneur. Ce sont des interférences, non pas radiophoniques, mais spirituelles. Heureux pour Daniel, qu'il a été probablement visité pour comprendre. Et ce matin, ce que je suis en train de faire par rapport à la prochaine fois où nous ouvrirons encore la suite, c'est que c'est une préparation ce matin pour que vous compreniez. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances, des dominations, des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes. D'accord? Oui. Il nous est dit que Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Les interférences en question sont d'ordre spirituel, je le répète. Elles affectent soit tantôt les éléments messagers porteurs, si je peux m'exprimer ainsi, de l'exaucement divin. C'est le verset 13 qui nous dit cela. Quand le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. J'expliquerai la prochaine fois. Parce que vous allez voir que l'histoire du roi de Perse est tout à fait particulière. Là, il faut décoder aussi. Soit tantôt celui qui prie, destinataire de l'exaucement. Toujours les interférences. Afin de le troubler et de le faire abandonner. Alors moi, je termine là parce que l'étude, elle se poursuivra. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, ne baissez pas les bras. On est enfants de Dieu. On appartient à Jésus-Christ. Il faut que nous restions avec ses convictions. Et c'est parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons à Jésus-Christ qu'il y a un enjeu et qu'il y a un défi sur la tête de chacun d'entre nous. Qu'il y a un défi sur cette église, sur les églises qui appartiennent au Christ, qui servent le Seigneur, qui veulent et qui prétendent, nous prétendons, eh bien, annoncer le salut à nos hommes, aux hommes et à tous ceux qui sont nos contemporains. Et croyez bien qu'il y en a un qui va entreprendre, eh bien, de faire exactement, de neutraliser et de miner le terrain. Alors, soyez encouragés ce matin. La deuxième partie va nous faire rentrer encore dans quelque chose où là, eh bien, après avoir reçu l'intelligence de la vision, d'avoir les yeux de notre cœur ouverts, nous allons voir d'une manière très précise, parce que je dis que le livre de Daniel est un livre qui nous offre des perspectives que nous ne pourrions peut-être pas, humainement parlant, comprendre. Mais vous allez voir que, en finale, le diable est vaincu et que le Seigneur est vainqueur. Et vous, dans votre position, parce que vous mettez votre foi, que vous compreniez ou que vous compreniez pas, que vous ressentiez ou que vous ressentiez pas, et si vous ressentez des choses qui sont négatives et mauvaises, eh bien n'allez pas vous décourager, c'est parce que vous êtes à deux doigts de rentrer dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Comprenez? Alors, mes frères et sœurs qui souffrez physiquement, vous qui souffrez peut-être de toutes sortes de perturbations psychologiques, morales, qui est atteint par des angoisses, par toutes sortes de troubles de cette manière, qui avait peut-être le feu dans votre maison sur le plan conjugal ou sur le plan familial, je veux penser. Ça peut arriver, ça. Hein. Croyez bien qu'il y a certainement notre implication personnelle, mais il y en a un qui allume le feu partout. Hein. Hey, je peux vous dire que des brasiers, il en met de tous les côtés. Et si nous ne faisons pas attention qu'il est en train d'allumer là, dans la maison, ici ou là, des brasiers, mais nous allons tomber dans le panneau, et lui, pendant ce temps-là, il se frotte les mains parce que vous êtes inopérant. Vous êtes là, dans l'incapacité d'agir et de vivre ce que Dieu vous a donné de vivre. Lui, il est l'allumeur de brasier. Il allume des feux partout, il allume des incendies. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais il faut voir que derrière, il y a là toute une stratégie. C'est de faire de l'Église et de faire de chacun d'entre vous, du chrétien ou de la chrétienne, mais quelqu'un qui soit inopérant et qui va se plaindre en disant « Mais je comprends pas, c'est terrible, je prie, puis il y a ceci et cela. » Mais il faut voir beaucoup plus loin que cela, frères et sœurs. Alors que Dieu vous aide. « Je ne te délaisserai pas, nous dit le Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas, alors que peut me faire un homme, alors que peut me faire l'adversaire. » Puisqu'il nous est dit que Jésus l'a vu descendre, il dit « Mais je voyais Satan tomber comme un éclair. » Il était vaincu. Vaincu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et je vous donnerai d'ici une quinzaine de jours rendez-vous pour la suite. Nous allons simplement demander à Dieu sa grâce. Merci Seigneur. Merci parce que, en effet, tu ouvres pour nous, comme nous le chantons, des œuvres merveilleuses. Mais pour ouvrir des œuvres merveilleuses, il faut d'abord que les yeux de notre cœur soient ouverts. Que nous soyons pénétrés de la compréhension de ta parole, de ta pensée, de ta volonté. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie de ce que tu nous as donné la Bible, de ce que tu nous as donné la parole de Dieu, et non pas dans une lecture traditionnelle, une lecture, Seigneur, rituelle, parce qu'il faut lire la Bible, mais parce que, en effet, Père éternel, tu nous as fait pénétrer dans tes sanctuaires, de cette écriture sainte, de cette lumière, comme, eh bien, David le dit, lumière à mes pieds, Seigneur, lampe sur mon sentier. Alors à ce moment-là, Seigneur, je peux comprendre en effet ce que, humainement parlant, eh bien nous sommes hors de portée de comprendre. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour l'importance et l'utilité primordiale de la prière. Je te rends grâce pour toutes les prières que tu m'inspires dans mon cœur. ce que tu inspires à l'Église. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, parce que lorsque j'ouvre la bouche avec foi, tu as déjà entendu ma prière. Et puis, Seigneur, je veux croire que l'exaucement est déjà en route pour m'atteindre, pour que je puisse me réjouir et glorifier ton nom. Mais, Seigneur, il y a des bandits de grand chemin. Oui, Seigneur, pour m'empêcher de recevoir, pour m'empêcher de glorifier ton nom. Seigneur, par l'exaucement, tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu vois la réflexion de chacun, la pensée de chacun en ce moment, Seigneur. Peut-être avec sa misère, avec sa peine, avec son attente, avec son espérance, avec toutes sortes de choses, Seigneur, qui, véritablement, eh bien là, sont des sujets de tristesse. Alors que nous devrions comprendre que tout cela, Seigneur, eh bien c'est toi qui changes la peine en joie, qui changes nos larmes en allégresse. Parce que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, un sauveur. Et nous sommes vainqueurs, et plus que vainqueurs, par la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.